Ok, nous allons donc lire notre Bible dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 3, verset 11. C'est pourquoi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Oui, nous continuons notre étude sur les six fondements de la foi. Et aujourd'hui, le 11e jour, nous continuons avec la doctrine des baptêmes. Donc, nous voulons rappeler que par rapport aux six fondements, nous avions déjà parlé du premier fondement qui est le renoncement aux œuvres mortes, le deuxième fondement, la foi en Dieu, et la fois passée, nous avions commencé le troisième fondement qui concerne la doctrine des baptêmes. Et comme verset de base, nous avions Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2 qui parle des fondements. Et pour le baptême, nous avons comme verset de base Matthieu chapitre 3, verset 11. Et parlant de la doctrine de baptême, nous avions énuméré au moins trois sortes de baptême. Le baptême d'eau, le baptême de l'esprit et le baptême de feu. Bon, certaines personnes mélangent le baptême de feu avec le baptême de l'esprit en disant que le baptême de l'Esprit, c'est le feu du Saint-Esprit qui vient en nous. Peu importe, mais nous allons essayer de parler aujourd'hui du baptême du Saint-Esprit. Parlant du baptême, il est important de savoir, de connaître celui qui baptise, l'élément qu'on utilise pour le baptême et le baptisé. C'est-à-dire, il y a trois personnes ou trois éléments. Celui qui baptise, l'élément qu'on utilise pour le baptême, et le baptiser. Alors, par rapport au baptême d'eau, nous avions dit que celui qui baptise, c'est l'homme. Jean-Baptiste ici a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous conduire à la repentance. Donc le baptême d'eau, c'est le baptême de la repentance. C'est-à-dire, par rapport à cette dispensation, selon 1 Pierre chapitre 3, verset 21, que le baptême qui nous sauve, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire, pour se faire baptiser dans l'eau, nous devons prendre cet engagement dans le cœur d'abandonner le péché et de suivre Dieu, de suivre les pas de Jésus-Christ. Donc, nous avions parlé de ça la fois passée. Pour plus de compréhension, vous pouvez repartir là-dessus. Donc, le baptisé, c'est le chrétien, c'est-à-dire celui qui s'engage à se faire baptiser, celui qui s'engage, qui prend la décision devant les hommes, devant les êtres visibles et les êtres invisibles, parce que le baptême d'eau n'est que symbolique. C'est-à-dire, ce que nous faisons physiquement n'est que symbolique, qui montre ce qui s'est passé à l'intérieur. Et le plus important, le baptême qui sauve, c'est l'engagement que nous prenons dans notre cœur. C'est ainsi que nous trouvons des gens qui n'ont pas vraiment pris d'engagement, qui se sont fait baptiser parce qu'ils ont vu les gens être baptisés, ou encore, parce qu'aujourd'hui dans plusieurs assemblées, il y a ces lois où on demande aux gens avant de servir, il faut passer par le baptême, ce qui est bien d'ailleurs. Ils se sont fait baptiser dans l'eau seulement parce qu'ils voulaient servir. Il n'y a pas eu vraiment un engagement sincère, c'est-à-dire que cette personne n'est pas passée réellement par là, une vraie repentance, et cette personne n'est pas vraiment sauvée, mais cette dernière s'est fait baptiser. Alors, pour ce genre de cas, la personne s'est juste lavée dans l'eau, mais sans être baptisée, parce que le baptême découle de l'intérieur. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et c'est ce baptême-là qui nous sauve. C'est ainsi que la Bible dit, celui qui croira sera baptisé et sauvé. Donc, il sera baptisé à l'intérieur exactement, et aussi à l'extérieur, et il sera sauvé. Maintenant, concernant le baptême, je disais par rapport au baptême d'eau, je rappelle, le baptisé, c'est celui qui s'engage. L'élément du baptême, c'est l'eau. Et le baptiseur, celui qui baptise, c'est l'homme, celui qui est né de nouveau, qui est lui-même déjà baptisé. À l'époque, Jean, c'est lui qui baptisait les gens. Ensuite, le baptême du Saint-Esprit, ici, l'élément, parlant du baptiseur, celui qui baptise, c'est Dieu ou Christ. C'est lui qui donne l'esprit. Maintenant, l'élément dans lequel nous sommes baptisés, c'est l'esprit. Et le baptisé, c'est l'homme qui s'est disposé à recevoir l'Esprit de Dieu. Nous voulons ici rappeler que pour le baptême du Saint-Esprit, aucun homme ne peut te donner l'Esprit, aucun homme ne peut te transférer l'Esprit, c'est ce qui est réservé à Dieu seul. Bien-aimé, seul Dieu peut baptiser du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples que vous devez rester à Jérusalem afin que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, par rapport au baptême du Saint-Esprit, il était prévu qu'on parle peut-être de quatre points. Qu'est-ce que c'est être baptisé du Saint-Esprit? Qui baptise? Comment faire pour être baptisé? Et les conséquences du baptême du Saint-Esprit. Nous avons déjà dit ce que c'est être baptisé du Saint-Esprit. C'est être immergé dans l'Esprit et recevoir l'Esprit en nous, c'est-à-dire l'Esprit au-dedans et en dehors. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est recevoir la vie de Dieu en nous, recevoir l'Esprit de Dieu dans l'homme. Parce qu'il est écrit que nous sommes le temple de Dieu. Mais cela ne se passe pas par hasard. Il y a des choses à faire. Il y a notre part de responsabilité et la responsabilité de Dieu. La fois passée, nous avions lu dans le livre de Jean, on peut toujours lire ce passage où la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, alors moi je prierai le Père afin que lui, il vous baptise, afin qu'il vous donne un autre consolateur. C'est dans Jean chapitre 14, du verset 15 au verset 16. Comment faire pour être baptisé du Saint-Esprit? Je lis Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous l'avez reçu, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ah, vous comprenez? Il demeure avec vous et il sera en vous. C'est là que nous comprenons mieux que Christ, c'est lui-même l'Esprit. Ah, Christ est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'ici, il dit ici que vous, il demeure avec vous, mais il y aura un moment où il sera en vous. Pour confirmer cela, nous pouvons prendre Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4 nous dit la même chose. En fait, c'est un mystère. Éphésiens chapitre 4. Je vais lire, excusez-moi, je vais lire à partir du verset 4, 4 à 6. Il est écrit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, c'est-à-dire le Père, et parmi tous le Fils, et en tous le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est le même Dieu qui est au-dessus de tous. Là, c'est la dimension du Père. Parmi tous, c'est la dimension d'Emmanuel, Dieu parmi nous. Et en tous, c'est la dimension du Saint-Esprit habitant en nous. Comment faire pour être baptisé du Saint-Esprit? Nous venons de lire ici, dans Luc, dans Matthieu, dans Jean chapitre 14, que nous devons garder les commandements. Garder, c'est recevoir la parole, accepter cette parole, vivre cette parole. C'est ainsi que nous allons recevoir l'Esprit de Dieu. Je vais encore lire deux passages pour confirmer cela. Dans Éphésiens chapitre 1, je vais lire du verset 13 au verset 14. Il est écrit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu a acquis à sa gloire. Amen. Vous voyez, la Bible dit, en lui nous avons cru, nous avons reçu la parole, et après avoir reçu la parole, nous avons reçu quoi? L'Esprit. Même prophétiquement, bien aimé, cela s'applique, cela s'explique. Jésus-Christ qui est la parole, il était venu en premier. Il est d'abord venu, lui qui est la parole, et comme les gens l'avaient reçu, ceux qui l'avaient reçu, après, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là étaient capables de recevoir l'Esprit. C'est comme ce que nous venons de lire ici. Je vais repartir encore dans Jean chapitre 14 que nous avons lu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il est écrit? Si vous m'aimez, gardez mes commandements, à partir du verset 15. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Alors, regardez le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut voir, parce qu'il ne le voit point, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Vous voyez, il parlait de lui. Et il sera en vous. Donc, Christ, la parole, et ensuite l'esprit vient après. Donc, tu reçois d'abord la parole. Ensuite, tu reçois l'Esprit. Je peux encore continuer dans Jean chapitre 14. La Bible dit, au verset 21, je lis 21 à 23, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître au monde, à nous et non au monde? Verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous voyez, nous viendrons là, c'est Christ, c'est-à-dire le Père et le Fils. Or, j'avais dit que le Père et le Fils, c'est aussi l'Esprit. Donc, les trois habitants, je dirais les deux ou les trois habitants dans un homme. Donc, c'est la même personne. Voilà pourquoi vous remarquerez dans soit les Épîtres ou encore dans les actes des apôtres, parlant de l'Esprit de Dieu, on dit par exemple l'Esprit de Christ ou l'Esprit de Dieu, pour montrer que c'est la même personne. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous nous préparions et que nous soupirons après cela. Comment recevoir le Saint-Esprit? Pour recevoir le Saint-Esprit, bien-aimés, il faut d'abord soupirer après cela. Si tu ne soupires pas, le Saint-Esprit n'est pas pour toi. Jean chapitre 7. Je lis le verset 37 au verset 39. Le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, pour que l'Esprit descende, il fallait que Christ soit glorifié. Il fallait que Christ monte. Parce qu'il pouvait pas, on ne pouvait pas avoir et le Saint-Esprit et Jésus-Christ sur la terre. Parce que c'est la même personne. Mais avec des missions bien définies. Christ, c'était la manifestation du Dieu invisible. La Bible dit qu'en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Maintenant, le corps de Christ, c'est devenu un corps invisible. Donc, on ne pouvait pas avoir le corps visible et le corps invisible. Voilà pourquoi il fallait que Christ soit glorifié, qu'il monte, afin que le Saint-Esprit descende pour former maintenant le corps invisible de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est le baptême qui nous fait rentrer dans le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est l'Église. Quand on parle de l'Église, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est l'ensemble de tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur dans leur vie et qui marchent dans la sainteté. Et lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, nous sommes introduits, bien-aimés, dans le corps. Voilà pourquoi la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 13, il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons, au verset 14, la rédemption et la rémission des péchés. Donc, quand il nous pardonne et nous libère de la puissance des ténèbres, il nous fait rentrer dans son corps. Et là-bas, nous sommes en sécurité. Là-bas, nous pouvons comprendre les choses de Dieu. Là-bas, nous pouvons connaître le cœur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le baptême du Saint-Esprit est indispensable. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Voilà pourquoi vous allez constater que le Seigneur dit aux disciples, c'est dans Luc chapitre 26, je pense, non, Luc 24, excusez-moi, Luc 24, les derniers versets, au verset 48 à 49, il dit, vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez à Jérusalem, dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Seigneur leur avait prêché l'évangile, mais il était question que ces hommes aillent pour faire des disciples. Mais le Seigneur Jésus savait que sans le Saint-Esprit, ces hommes-là ne pouvaient pas fonctionner. Le Saint-Esprit permet de vivre la vie de Dieu et de communiquer, bien-aimé, la pensée de Dieu et la vie de Dieu aux autres. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, il n'y a pas de service. La Bible nous parle de cela dès le commencement. Souvenez-vous, lorsque Dieu a créé des animaux, il a parlé à la nature. Lorsqu'il a créé des créatures, il a parlé à la nature. Il a créé les poissons, il a parlé à l'eau, etc. Mais quand il fallait créer l'homme, Dieu a parlé à lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais dans Genèse chapitre 2, la Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Hein, Genèse 2, 7. Mais au verset 8, la Bible dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc la différence entre l'homme spirituel et ou la créature spirituelle, l'homme spirituel et les autres créatures, c'est que l'homme avait reçu le souffle de vie. Et c'est ce qui lui a permis de travailler et de garder le jardin. Sans le souffle de vie, l'homme ne pouvait pas être placé dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, la Bible dit de lui qu'il était rempli de l'Esprit depuis le ventre. Mais pour entrer dans le service, il fallait que l'Esprit descende sur lui sous la forme d'une colombe. Je ne suis pas en train de dire que le Saint-Esprit, c'est un pigeon ou une colombe, non. Mais c'était, bien aimé, une image. Parce que Dieu avait parlé la veille à Jean-Baptiste pour distinguer Christ des autres. Il dit, tu verras l'Esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Et c'est comme ça qu'il est rentré, bien aimé, dans le service. Je crois que l'Église souffre aujourd'hui parce que ceux qui sont supposés emmener la parole, prêcher la parole, quelquefois n'ont pas le Saint-Esprit ou ils ne sont pas remplis de l'Esprit. Parce que, bien aimé, c'est une chose de recevoir l'Esprit, mais c'en est une autre, bien aimé, d'être toujours rempli de l'Esprit. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et le verbe utilisé là-bas, c'est le présent continu. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. C'est pourquoi dans Éphésiens 4, 30, il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, c'est très important. Sans la plénitude de l'Esprit, nous ne pouvons pas exercer le ministère. Nous avons vu cela avec les apôtres. Jésus a dit, attendez, c'est vrai que vous avez reçu la parole, mais attendez. Et quand l'Esprit est descendu dans Actes chapitre 2, c'est là que l'apôtre Paul cita la prophétie de Joël qui disait, dans le dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et nous savons tout ce qui est dit là-bas. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit, c'est ici l'accomplissement de cette prophétie. Dieu est fidèle dans l'accomplissement de la prophétie. Mais si nous ne vivons pas ce que les apôtres ont vécu, c'est parce que nous ne faisons pas ce que les apôtres avaient fait. Comment faire pour recevoir, bien-aimé, le Saint-Esprit? Pour recevoir l'Esprit, nous devons faire comme les apôtres. Nous devons commencer, bien-aimé, par abandonner, par tout abandonner. Par dépendre totalement de Dieu. Et nos motivations doivent être pures. C'est très important aussi. Parce que moi, je me rappelle, il y a 5 ans, une sœur m'a appelé pour que je prie pour elle, soi-disant pour qu'elle reçoive l'Esprit. Elle dit, vraiment, je veux être baptisé du Saint-Esprit. Elle m'a appelé par Skype. Je veux être baptisé du Saint-Esprit. Et avant de prier, j'ai quand même posé la question, pourquoi veux-tu être baptisé du Saint-Esprit? Elle dit, parce qu'en fait, dans mon église, tout le monde parle en langue et je suis gêné. Voilà pourquoi moi aussi, je veux recevoir l'Esprit pour que moi aussi, qu'on me voit tomber, parler en langue, etc. C'est là le problème. Bien-aimé, nous devons discerner notre motivation. Quand tu cherches l'Esprit, quelles sont tes motivations? Est-ce que ce sont des bonnes motivations? Parce que la Bible nous parle de Simon. Simon, qui était magicien, mais qui ne s'était pas vraiment bien repenti. La Bible dit qu'il avait laissé ses livres de magie quand Philippe avait prêché. Mais après, quand les apôtres ont écouté que là-bas, les gens avaient ouvert leur cœur pour l'évangile, Pierre et Jean étaient descendus là-bas pour prêcher et pour imposer les mains aux gens. Les gens recevaient l'esprit, etc. Simon a vu cela et dit, homme frère, je veux vous donner de l'argent afin que vous puissiez me donner ce pouvoir. Vous voyez? Donc sa motivation n'était pas bonne. Il voulait acheter le don de Dieu pour le spectacle. Malheureusement, aujourd'hui, dans l'église, en ce temps de la fin, la même chose se fait. Maintenant, cette fois-ci, ce n'est pas Simon qui vient acheter, mais c'est ceux qui prétendent avoir l'esprit, qui vendent l'esprit. Ils organisent des séminaires d'onction. Et généralement, après, dans ces séminaires-là, il y a un échange. On dit, il faut donner de l'argent afin que je vous communique ce qui est en moi. Et ils disent, je veux vous communiquer l'esprit. Bien-aimé, on ne peut pas acheter l'esprit, on ne peut pas vendre l'esprit. Toute personne qui cherche à vendre ou à acheter l'esprit, c'est une personne qui n'est pas en Dieu. Voilà pourquoi Pierre avait parlé à Simon en disant que tu es dans l'iniquité et tu n'as pas de part dans ces choses-là. Faisons très très attention. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans le monde. Séminaire du Saint-Esprit, c'est pas mauvais de faire un séminaire où on parle, on explique sur le Saint-Esprit. Mais nous devons mettre en tête qu'un homme ne peut pas te donner l'Esprit. Un homme ne peut pas te communiquer l'Esprit. C'est seul Jésus-Christ, Dieu, qui communique l'Esprit. Notre part, c'est de garder la parole de Dieu. Il est vrai que dans la Bible, dans Actes chapitre 19 par exemple, quand Pierre a croisé les disciples, pas Pierre mais Paul avait croisé les disciples qui avaient reçu l'évangile par Apollos, avait demandé à ces gens si ils avaient reçu l'Esprit lorsqu'ils avaient cru. Et ces gens avaient dit, nous n'avons jamais entendu parler de cela. On ne sait même pas qu'il y a un esprit qui existe. Et Paul leur imposa les mains au nom de Jésus, les baptisa, et ces gens ont été baptisés de l'Esprit. Donc, ce n'est pas Paul qui avait transféré l'Esprit, mais c'est Dieu qui a utilisé Paul. Voilà pourquoi nous devons faire très, très, très attention de vouloir devenir des transmetteurs. On devient comme des transmetteurs du Saint-Esprit. Non, ça n'existe pas. Nous ne pouvons que baptiser dans l'eau. Il n'y a qu'un seul qui baptise de l'Esprit. Il n'y a qu'un seul qui peut donner l'Esprit parce que l'Esprit, c'est Dieu. Seul Dieu peut donner Dieu à une autre personne. C'est vrai que nous sommes enfants de Dieu, mais bien-aimés, à ce niveau-là, nous sommes limités. Nous prions seulement. Nous pouvons prier pour que la personne soit baptisée de l'Esprit. Mais tout dépend de Dieu. Ce n'est pas à nous. Voilà pourquoi nous devons discerner, même lorsque nous voyons quelqu'un se lever pour dire qu'il y a quelque chose à transmettre. Et surtout quand quelqu'un déjà commence à dire qu'il va transmettre quelque chose, moyennant quelque chose, moyennant l'argent. Bien-aimés, c'est sûr et certain que ce n'est pas de Dieu que la personne l'a reçu. Il est écrit, vous avez reçu gratuitement. Gratuitement, vous avez reçu. Gratuitement, vous devez donner aussi. Mais si quelqu'un commence à vendre la chose de Dieu, bien-aimé, c'est sûr que ce n'est pas de Dieu qui a reçu cela. Donc, je voulais dire ici que nous ne devons pas soupirer après l'esprit pour la satisfaction de notre chair. Hein? On n'utilise pas les choses de Dieu pour la satisfaction personnelle. Quand on a dit à Jésus, change ces pierres-là en pain pour que tu manges. Jésus a refusé parce qu'il ne devait pas utiliser les dons de Dieu pour la satisfaction personnelle. Aujourd'hui, les gens cherchent les dons de l'esprit pour la satisfaction personnelle. Certains rêvent être des grands guérisseurs. Ils rêvent être des gens grands par les dons spirituels parce qu'ils cherchent à attirer les regards sur eux. Ils cherchent le spectacle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention à toutes ces choses. Nous devons avoir des bonnes motivations pour recevoir le Saint-Esprit. Donc, pour récapituler, nous avons parlé de ce qu'est le Saint-Esprit, de celui qui baptise, et nous avons parlé aussi de comment recevoir le Saint-Esprit, recevant la parole de Dieu, mettant la parole de Dieu en pratique, et nous allons recevoir l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu vient, bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu ne vient pas toujours avec de bruit, parce qu'aujourd'hui, il y a une doctrine comme ça qui dit que pour savoir que tu as été baptisé du Saint-Esprit, il faut des cris, il faut commencer à parler en langue et crier, etc. Bien-aimé, le parler en langue, c'est un don. C'est simplement un don spirituel, comme tout autre don. Hein? Quand vous lisez dans Actes chapitre 2, on dit que ces gens parlaient dans d'autres langues, mais c'était des langues intelligibles, des langues qu'on pouvait comprendre. Et Pierre dit, parce qu'il y avait des gens qui disaient à côté, que ces gens-là sont ivres. Et Pierre dit, ils ne sont pas ivres comme vous le présumez. Ça veut dire que Pierre ne parlait pas en langue. Pierre ne parlait pas en d'autres langues. Il dit non, non, ces gens ne sont pas ivres. Mais c'est ici la promesse, l'accomplissement de la promesse. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, prochainement nous parlerons de la conséquence du baptême du Saint-Esprit. Parce que oui, tu es baptisé de l'Esprit. Tout le monde peut dire oui, je suis baptisé. Mais quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui arrive après? C'est ainsi que nous pourrons discerner le vrai et du faux baptême du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un faux baptême du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse et nous parlons prochainement, si il le permet. Au nom de Jésus, Amen.